France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Maxime Pionneau est né et vit toujours à Angers. Il fréquentait, quand il était petit, une école privée du centre-ville qui s'appelait l'Institution Jeanne d'Arc et qui n'existe plus aujourd'hui. Sa mère y était institutrice. Entre le CP et le CE2, Maxime était dans la même classe qu'un certain Quentin. Le père de Quentin, lui, était prof de physique au collège du même nom. En cinquième, Maxime a eu le père de Quentin comme prof. Il y a même quelques heures en primaire où la mère de Maxime a enseigné l'histoire à Quentin. C'est pour vous dire que ces deux garçons étaient liés. Maxime se souvient d'être allé, par exemple, chez Quentin pour son anniversaire. Et puis, ils se sont perdus de vue. 25 ans plus tard, Maxime travaille comme correspondant à Angers pour plusieurs médias, dont Les Pieds sur Terre. En mars 2025, une série d'articles fait la une du Courrier de l'Ouest et de Ouest-France. Il y est question de parents qui auraient voulu, je cite, « éduquer leurs enfants à la sexualité », d'une audience au tribunal et d'inceste. C'est le sujet de cet épisode, je vous préviens. Vous pouvez choisir de l'écouter ou pas, maintenant ou plus tard, si c'est difficile à entendre pour vous. Pour une raison qu'il ne s'explique pas très bien, Maxime met très longtemps à lire ses articles, un pressentiment. Mais quand il s'y met, il comprend que le petit garçon dont parlent les journaux, c'est son copain de primaire, Quentin. Certes, les faits se sont déroulés après le CM2, à un moment où les garçons ne se voient plus. Mais Maxime est très affecté, même s'il n'a jamais vraiment repensé à Quentin depuis. Il veut alors en savoir plus, comprendre ce qui a pu se passer à côté de chez lui. C'est pourquoi il a enregistré Quentin et sa sœur Rebecca tout de suite dans Les Pieds sur Terre.
Je m'appelle Rebecca, j'ai 38 ans. Je suis médecin radiologue et maman de deux enfants. On est une fratrie de trois, je suis l'aînée. J'ai 2 ans d'écart avec donc ma sœur au milieu et puis donc Quentin qui est le dernier, 4 ans d'écart. Et on a grandi à La Boale, à une quinzaine de kilomètres d'Angers, sur les bords de Loire, un charmant petit village. Et mon père était prof de physique chimie et ma mère a travaillé à l'école d'ingénieurs d'Angers, une école d'agriculture. Elle était dans la direction... Elle avait créé un master de recherche, elle avait un bon niveau de, elle avait un doctorat en œnologie, je crois que c'était une des premières femmes, a priori, à avoir ce titre de docteur en œnologie. Enfin, mes parents étaient des gens, sur le papier, bien comme il faut. Dans un milieu social, je pense classe moyenne, avec accès à la culture, voilà, classe moyenne. Mais moi, j'ai plutôt souvenir d'une enfance malheureuse. Enfin. Et en même temps, il ressort quand même des moments de tendresse, il ressort quand même des moments d'amour, il ressort aussi des bons souvenirs de cette enfance, mais dans l'ensemble, c'est plutôt quelque chose de noir. Je passais beaucoup, beaucoup de temps sur mon piano. Je me suis vraiment évadée grâce au piano et j'ai des super souvenirs de moments de vacances, de notre maison de vacances qui était à Fromentine au bord de la mer. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces petits moments heureux, je ne serais pas là où je suis en ce moment. Après, tout ce qui est à partir de mes 10 ans, à partir du préadolescence, on va dire, à partir de là, c'est vraiment très, très sombre. J'avais un mal-être profond, une sorte de nébuleuse grise noire un peu tout le temps dans ma tête, avec des espèces des flashs qui surgissaient à des moments, je pense, où je prenais pas le contrôle. Par exemple, ça, jeune adulte, si je faisais la fête, je suis bourrée. Ça va revenir, je vais avoir un flash. Ou par exemple, au début où j'ai eu mes premières histoires amoureuses, mes premières relations intimes, j'avais des flashs qui revenaient. Et j'enfouissais ça très 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 profondément. Je me disais, j'hallucine, c'est toi qui es malsaine de t'imaginer ce truc-là. Donc dans pas mal d'expériences comme ça, de vie nocturne en fait, il y a des flashs qui sont revenus. Je suis nue sous une couverture, en fait, en chemise de nuit, en fait, rouge un peu en soie, ouverte, dans le lit de mes parents, avec en chien de fusil, avec mon père derrière moi qui me caresse. Et ma mère monte les escaliers et arrive et donc nous voit. Et elle nous regarde avec un air, pas vraiment un air surpris, mais moi, me regarde comme si je faisais une bêtise. Alors, en tout cas, moi, c'est comme ça, de mon point de vue, parce que je pense que j'ai entre 12 et 14 ans, parce que je suis un peu formée quand même. Et mon père dit non, mais c'est rien. Et en fait, elle part. Je me souvenais que mon père me disait, on fait rien de mal, c'est beau l'amour entre un père et une fille et tout ça. C'était des phrases qui revenaient souvent dans ma tête, ceux qui disent ça. Il y avait ce flash récurrent et l'autre flash précis, parce que c'est quand même finalement assez précis, c'était mon père qui est dans un bain, dans la baignoire de notre maison à La Boëlle, et qui m'appelle en fait. J'ai cette sensation de rentrer dans la salle de bain, que sur les miroirs il y a de la buée parce que vraiment c'est très chaud. Enfin, il prend un bain depuis longtemps, machin. Il prenait des super longs bains avant d'aller chez le kiné ou chez le médecin. On voit à moitié en fait à la surface de l'eau son sexe. Voilà. Et par contre là, moi, ce qui m'a, en quoi ce flash revenait, c'est qu'il me dit tu peux faire de moi ce que tu veux maintenant. Et en fait, il suggère de lui faire des choses. Et donc, je pense que j'ai 14 ans et je me rappelle me dire mais est-ce que j'hallucine? Est-ce que je suis complètement malsaine? Et est-ce qu'il vient vraiment de me proposer de faire des choses? Et je me rappelle lui lancer le gant et partir. Et le dernier truc, et qui est revenu finalement plus tard, qui est beaucoup moins précis, mais qui revenait, c'était mon père qui me montrait... Donc mon père se promenait quand même, je dirais pas tout le temps, mais régulièrement sans bas, en fait, sans pantalon, sans caleçon. Et du coup, on est dans un chalet, on était au ski. Il y a un moment, je sais pas, enfin, on fait pas de ski, on est tous ensemble à la maison, enfin, dans le chalet. Et il me montre, en fait, sur son corps, les zones érogènes chez l'homme. Et ça, je me rappelle très précisément de la discussion, comme il est prof, il aime bien apprendre les choses. Et c'est cette zone-là, tu verras, quand t'auras un copain, ou voilà, si tu fais ça à telle zone, ça rend fou les hommes. Voilà, ça, je me rappelle très bien de cette discussion. J'ai pas du tout de souvenir de pénétration, de viol. J'ai que ce souvenir, enfin, que. J'ai ce souvenir d'attouchement, de caresse, et le souvenir d'incitation, le deuxième souvenir. Maintenant, avec du recul, je me suis dit, peut-être que si finalement j'avais été violée, s'il y avait eu une rupture encore plus importante de mon intégrité physique, peut-être que ce souvenir aurait été plus présent. Je sais pas. Enfin, je savais bien qu'il y avait un truc, mais j'arrivais pas à avancer là-dessus. Par contre, entre deux grossesses, en fait, après la naissance de ma première, mes deux filles sont rapprochées. Je sais pas si c'est les hormones, si c'est l'instinct animal de protection des enfants, mais en tout cas, c'est remonté en masse, et à ce moment-là, ça a été beaucoup plus évident que c'était pas normal, en fait. Donc, je suis médecin, j'ai quand même pas mal d'amis médecins. J'ai une de mes meilleures amies qui est gynécologue. On fait un jour un footing, j'étais HS, j'avais pas dormi de la nuit, mon premier bébé a, je pense, un an, elle faisait des otites, machin, enfin, elle dormait pas. Je suis HS, on court, et je commence à dire non, ça va pas en ce moment, avec mon conjoint, ça va pas, j'ai des blocages, enfin, je parle de façon assez intime de ça. Et elle a une phrase, je sais pas si elle avait perçu des trucs avant, elle me connaît quand même, à ce moment-là, elle me connaît presque déjà depuis 15 ans, et elle me dit, écoute, je ne sais pas ce que t'as subi ou ce que t'as eu, mais je pense qu'il faudrait que t'en parles avec ta gynéco. Ça a été un peu un premier petit électrochoc où je me suis dit, bah en fait, je suis con, bien sûr, j'ai eu des trucs, enfin... Donc là, à ce moment-là, donc j'ai une fille qui a un an, et en fait, je le sais pas, mais je suis enceinte. Je prends rendez-vous avec ma gynécologue en disant faut qu'on se voit parce que hormonalement là je suis au plafond, ça va pas du tout. Et au fond de moi, je pensais pas que j'allais me livrer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est au moment, je pense, de donner ma carte vitale, un truc comme ça, où à son regard en fait, je lui dis je suis pas certaine de moi, mais j'ai certains souvenirs et je me demande si j'ai pas eu des attouchements. Mais en fait, je pense en quelques minutes, elle me dit en fait non, c'est des attouchements. Elle me dit il faut absolument interroger votre frère et votre sœur, couper les ponts avec vos parents, vous en parler avec votre mari. Je n'avais jamais parlé avec mon mari. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment trop peur de lui dire, parce que je me disais il va avoir l'impression que je l'ai trahi. Enfin, on s'est mariés sur cette base-là, je lui ai pas dit, on a eu un enfant, notre fille est des fois gardée par les parents. Donc j'en ai parlé le soir même, il était pas fâché, bien sûr que non, et il était même pas étonné en fait. Du coup, on décide ensemble, avec les éléments qu'on a à ce moment-là, en fait on dit de toute façon, mon père a probablement changé aussi, puis de toute façon, mon père, tant qu'il y a ma mère, il se passera rien quoi. Donc j'envoie un message à mes parents, je me rappelle, où je leur dis « Écoutez, il y a un truc très important dont il faut que je vous parle, il faut qu'on prenne un moment tous les trois pour absolument avoir cette discussion. Mais j'ai pas vraiment de retour d'eux où je sens qu'ils sont un peu fuyants. Et en même temps, bon, voilà, je comprends. Je pense que là, j'imagine qu'ils se sont dit, bon, bah, le moment est arrivé. Et puis, donc, moi, dans ma tête, j'ai un peu ma petite checklist de personnes très scolaires et je me dis, bon, de toute façon, là, je vais chez la psy, j'en ai parlé à mon mari. Les prochaines étapes, c'est de vérifier si ma sœur et mon frère ont eu quelque chose, quoi. Donc, mon frère, compliqué parce qu'il est au Canada. Donc, mon frère, j'en parle pas tout de suite. Ma sœur, je la vois en juillet. C'est le baptême de ma fille. Enfin, baptême civil, bref. Et ben voilà, je lui dis, écoute, j'étais voir ma gynéco. Je pense que j'ai eu des attouchements. Enfin voilà, je lui explique la démarche qu'elle m'a dit de bien demander à mon frère et ma sœur. Donc je lui explique ça et je lui dis surtout que je fais ça parce que bah pour évaluer aussi le risque de dangerosité pour mes enfants, quoi. Ma sœur à ce moment-là n'a pas d'enfant. Moi, j'ai comme souvenir qu'elle me répond que ça ne l'étonne pas trop concernant papa, ce que je lui raconte. Elle dit, ouais, tu sais, papa, il a toujours eu un rapport au sexe très particulier. Mais elle me dit direct, franchement, il a changé. Et moi, je lui demande, ok, et toi, t'as eu quelque chose? Et elle me dit, non, non. Donc, je continue ma petite vie, je vois toujours mes parents. Et arrive, arrive décembre 2019. Où c'est Noël, donc mon frère rentre du Canada. Finalement, on se met à discuter et moi j'étais toute remuée parce que je venais de m'engueuler très fort avec ma sœur. Mon frère arrive, me voit comme ça, il me dit bah attends, calme-toi. Et je sais pas pourquoi, je pense que ça a ravivé en moi, une souffrance, un truc. Et là, je lui ai dit en fait Quentin, assieds-toi. Et puis là, je lui ai balancé mes souvenirs. Donc, je me rappelle, on est dans la cuisine, il est assis sur le tabouret haut là. Et je suis en train de faire semblant de faire la vaisselle, en fait. Et il me regarde, là, et il me dit, donc j'étais enceinte aussi, j'étais bien enceinte, et il me dit, mais attends, vas-y, assieds-toi sur le canapé, là, t'as un truc à manger, t'as du chocolat, t'as un truc. Il me dit, non, mais en fait, moi, ce que je vais te raconter, c'est bien pire, quoi. Bah là, en fait, non seulement mon frère m'a dit, bien sûr que je te crois, et tout ce que tu me dis, c'est bien des attouchements. Et là, il m'a raconté, lui, ce qui lui était arrivé, et je pense qu'au final, ça a été l'électrochoc qu'il fallait pour moi, c'est là d'un coup moi de me dire en fait c'est gravissime. J'apprends finalement que mon frère a été agressé par les deux parents, dont ma mère. Du coup ça fait 6 mois que je veux protéger mes parents et que je veux pas que je me voile la face, mais qu'en fait ma mère aussi. Donc en fait en plus que ma fille j'ai laissée dans les bras de mes parents pendant 6 mois parce que je me voilais la face, mais qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé ces 6 derniers mois? Là, il n'y avait plus histoire de qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Enfin, là, j'ai dit, de toute façon, je ne les reverrai plus jamais. Je me rappelle que c'est la première fois que je tape sur mon téléphone, genre pédophilie, inceste, que je regarde les peines qui peuvent. Enfin, voilà. Alors que depuis 6 mois, je n'avais même pas regardé sur Internet des témoignages d'inceste, rien. Et puis, après, du jour au lendemain, voilà, je quitte le. Enfin, c'est en pratique, je quitte le WhatsApp familial, je ne réponds plus aux appels de mes parents. Et puis j'ai porté plainte, je crois que c'était le 11 janvier, enfin 10 jours plus tard, quoi. Voilà, 2020.
Je m'appelle Quentin Jourgeon, j'ai 34 ans, ça fait plus de 8 ans maintenant que je vis à Toronto. Et du coup j'y habite avec ma femme et avec ma petite fille qui a à peine 1 an et mon chien. Tout a commencé aux alentours du CM1. Moi, j'étais au primaire avec toi, Jeanne d'Arc, jusqu'à la fin du CE2, jusqu'aux années 2000, je pense. Donc, on avait 9 ans. Donc, pour le coup, j'étais plus à Jeanne d'Arc, au primaire, avec toi et avec nos autres amis. Et pour remettre dans le contexte un peu, mon père était un grand fan de tout ce qui était cassette vidéo. Et donc à l'époque, il avait une collection assez impressionnante de cassettes VHS où il enregistrait en fait beaucoup de films. Et moi, souvent, il me demandait de l'aider à trier des films sur des cahiers à la main, parce que du coup, il fallait répertorier les centaines de cassettes ou même les milliers de cassettes qu'il y avait dans la maison. Et au cours d'une de ces matinées, il a mis à la télé une des cassettes ou un DVD, je pense que c'était un DVD, qui contenait des scènes pornographiques. Et il l'a laissé tourner. Et ce que je me rappelle de ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que mon père avait plus ou moins sélectionné une certaine scène ou certaines scènes qui me montraient. Mais c'est tout. Ça a vraiment été le début. Et d'ailleurs, je fais juste un aparté. Si ça te dérange pas, je vais l'appeler David Ça fait plusieurs années que je dis pas à mon père, je le nomme par son prénom, David. Donc c'est plus simple pour moi. Donc David, en fait, au cours de l'année du CM1, a commencé en fait à me montrer de plus en plus de choses. Ça a vraiment été ça pendant, j'ai envie de dire, plusieurs mois, jusqu'à ce qui, entre guillemets, qu'il augmente dans la gravité. Et là, en fait, il a commencé à inventer quelque chose qu'il a appelé des soirées spéciales. Du coup, avec Frédéric, avec ma mère, par l'intermédiaire du jeu. Donc, il a commencé à amener différents types de jeux, que ce soit des jeux de cartes, des jeux de dés, des jeux de fléchettes, des jeux de roulettes. Et je me rappelle assez précisément de ce jeu de roulette, d'une roulette de casino, hein, où on joue avec la bille qui tourne au milieu. Et c'est ça qui va marquer la première soirée spéciale, qui était en pleine journée. On jouait avec la roulette et on avait des gages à répéter. Et du coup, c'est là où j'ai pu avoir mes premières expériences sexuelles avec, du coup, ma mère et avec mon père à côté. Donc ça a vraiment été ça le début. J'étais très proche avec David étant petit. Il m'incluait dans un peu tout ce qu'il faisait au quotidien, s'il faisait des travaux, s'il faisait des choses. Donc, étant petit, moi, j'ai suivi. Je pense pas avoir compris dès le début vraiment le pourquoi. C'est vrai que David me traitait vraiment comme un confident, même sexuel, où il me racontait des choses que lui-même avait pu faire quand il était jeune ou dans sa vie. Il m'avait même raconté des sortes d'expériences extra-conjugales. Donc j'étais vraiment devenu en fait un adulte à qui il racontait plein de choses. Et j'étais en même temps un enfant qui l'éduquait sexuellement. Et très rapidement, à partir du début de collège, quand on commençait les soirées spéciales et qu'il y en avait de plus en plus, là, je sais que il y avait quelque chose au fond de moi qui disait que c'était pas normal. David était très très autoritaire dans la famille, donc on avait en fait tous peur de lui. Et c'est pour ça que j'ai toujours gardé ça pour moi entre guillemets quand j'étais petit aussi. Il y a ce mélange de honte et de peur qui fait que jamais de la vie tu le dis. Les soirées spéciales, donc si on étale sur les années, j'ai envie de dire c'est une fréquence de entre une fois tous les mois, tous les deux mois, ça dépendait un peu des moments. Ça a continué avec toujours un peu ce même schéma où David planifie tout. Il me disait bon bah vendredi prochain on va faire une soirée spéciale avec maman. Et du coup moi je disais ah d'accord. Et David programmait lui aussi des jeux ou du support matériel. On avait des jeux de cartes érotiques, des dés érotiques aussi. Donc c'est-à-dire que sur les faces de dés il y avait des positions à répéter. Et si on perdait, on tirait une carte du jeu de cartes avec une scène explicite ou on tirait le dé qui était explicite aussi et il fallait répéter l'action. Et du coup, c'était à moi de le faire avec ma mère. Ça pouvait être aussi mon père qui le faisait avec ma mère. Par moments, c'est arrivé, je pense, plusieurs fois, où ça pouvait être mon père et moi avec ma mère en même temps. Donc, j'ai eu un peu... j'ai envie de dire tous les scénarios inimaginables qui sont arrivés. Après, avec l'évolution technologique, David avait préparé des DVD aussi avec des scènes pré-coupées. Celui qui perdait devait répéter, on tirait au hasard un chiffre et on tombait sur la scène qui correspondait au chiffre sur le DVD. Et il y avait peut-être 2 minutes de scène et il fallait faire pareil. J'ai jamais su au fond de moi comment est-ce qu'il avait réussi à cacher tout ça de mes sœurs, qu'elles ne s'en soient jamais aperçues. En général, c'était le soir, hein, elles dormaient. Ils trouvaient des prétextes pour que je reste avec eux. Par exemple, oh, Quentin, il va jouer aux échecs avec moi. Ou Quentin, il va regarder un film, il va rester. Et j'ai des souvenirs précis où mon père, d'un coup, s'arrête et tend l'oreille, se dit, mince, j'ai entendu quelque chose, qu'il aille descendre l'escalier et vérifier si mes sœurs n'étaient pas descendues parce qu'elles avaient entendu un bruit ou autre. Et donc, de ce fait, en effet, David était préparé et m'a toujours dit de ne pas en parler. Il fallait pas que mes soeurs le sachent, il fallait que personne ne le sache. Et il m'a toujours rassuré dans le sens, ou essayé de me rassurer, en me disant que c'était entièrement normal. Et il essayait toujours de trouver des exemples de personnes ou de civilisations qui faisaient les mêmes choses. Pourquoi ça s'est arrêté et quand? Ce qui m'a aidé à retracer un peu la période, c'est que je me rappelle quand j'étais en quatrième, m'être posé la question, qui est assez dur à entendre et à dire aujourd'hui. Et si ma mère tombait enceinte? Je sais aussi que moi, je commençais vraiment à essayer de m'opposer à David en disant que j'avais déjà émis un peu le fait que je voulais pas vraiment que ça continue. En grandissant, c'est normal, on devient ado ou pré-ado. En fait, c'est ça qui est assez dur, je pense, à comprendre pour des personnes extérieures. C'est que même pendant ces années de soirée spéciale, il n'y a rien qui changeait dans notre vie de tous les jours. C'était comme si c'était un monde parallèle ou un moment isolé. Mais la vie était la même et continuait de la même manière. Savoir que c'est sûr que dans ma tête, je m'étais dit que ce secret, cette partie de moi, resterait à jamais enfouie et que je le dirais jamais. Encore une fois, trop de honte. J'ai réussi à vivre en fait avec ça jusqu'à un certain moment. Et un jour, encore une fois, mon cerveau a décidé de relâcher l'information et de le dire. Il faut savoir que j'ai continué à avoir des bonnes relations avec mes parents jusqu'à ce que je le dise et le procès. Et il y avait une chose que je m'étais promis dans ma vie en grandissant, c'est que je me suis dit, il y a une personne peut-être qui pourrait savoir ce qui m'est arrivé, et cette personne en l'occurrence, ce serait ma femme. Et début septembre 2017, je reviens d'un long voyage de 3 ou 4 semaines en Iran, que j'avais fait avec un ami, un peu sur un coup de tête, où du coup à l'époque, ma copine était totalement opposée. Donc je reviens à Toronto, et bon bah... Le soir même, on se dispute comme jamais avec ma copine. Et à la fin de plusieurs heures de dispute, c'est vrai que dans ma tête, je me dis, ça se trouve là, notre relation de plusieurs années, on est en train de se séparer. Et du coup, c'est là où dans ma tête, je sais pas pourquoi, il y a ça qui me revient en me disant, bah, je me suis toujours dit qu'en fait, seule ma femme pourrait savoir ce secret. Je me dis, bon, bah, en fait, elle devrait le savoir. Et si elle le sait, bah, ce sera ma femme. Et du coup, on restera ensemble. Et donc, c'est là, à ce moment précis, où je dis à ma copine du moment et qui du coup est aujourd'hui ma femme, je commence à lui raconter, alors pas dans le détail, je suis resté très mesuré dans la manière où j'ai approché mon discours et je lui ai dit bon bah il faut que je dise quelque chose que je t'ai jamais dit et ça a eu le don d'arrêter la dispute sur le champ et à partir de là en fait ça a commencé un peu à libérer ma parole donc il a fallu un an où en fait où j'ai beaucoup parlé avec ma compagne. Au début, j'avais un peu enlevé ma mère de l'équation, je l'avais pas trop dit, et je m'étais toujours dit que bon, bah, j'étais un cas isolé, que c'était arrivé à personne d'autre. Et en fait, un an plus tard, en décembre 2019, je suis en France, je fais un retour en France d'ailleurs pour voir mes parents, parce que du coup, je continuais à garder des liens un peu plus effacés, mais toujours avec mes parents. Et c'est vrai que depuis que j'avais révélé ça à ma compagne, j'avais un peu peur. J'étais pas à l'aise quand je voyais des photos sur WhatsApp ou dans les groupes familiaux de ma petite nièce qui était avec mes parents. Et j'avais toujours ce petit pincement au cœur quand je voyais ça. Je faisais... Et s'il arrivait quelque chose? Et donc, Rebecca, elle, qui vivait à Angers, qui vit toujours à Angers, mais était dans sa maison à elle. Et là, en fait, au milieu de sa cuisine, et c'est là, en fait, où mon sang, il a fait un tour en me disant, mais j'étais pas un cas isolé, en fait. Et c'est plus grave que juste moi. À l'époque, j'avais toujours tendance à minimiser ce qui m'était arrivé, en disant, bah, c'était juste moi, c'est pas grave, aujourd'hui, je vis avec. Et à partir du moment où j'ai réalisé que, en fait, non, ça arrivait aux petits garçons et aussi aux petites filles, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Du coup, dans les mois qui suivent, Rebecca et moi-même, on porte plainte. Début 2020. Frédéric a écrit une lettre qui nous a été retransmise à travers son avocat. Assez rapidement après la garde à vue, peut-être quelques mois après, une lettre d'excuses, plus ou moins, qui disait qu'elle regrettait ce qui était arrivé. Mais aussi une lettre qui montrait qu'elle voulait se séparer, entre guillemets, de la responsabilité qu'elle avait avec David, qu'elle aussi était une victime dans tout ça et qu'elle était sous le contrôle et l'emprise psychologique de son mari. Elle finit même en disant « Merci, merci les enfants de m'avoir ouvert les yeux. Je peux prendre un nouveau départ, une nouvelle vie. » On l'a toujours placé un peu nous-mêmes comme une victime de David. Mais honnêtement, aujourd'hui, à travers tout ce qui s'est passé, on a vu hein, aussi sa vraie nature, qu'elle-même aussi est une prédatrice comme mon père est un prédateur. La date du procès était fixée le 26 mars 2025. Ce qui a vraiment été impressionnant, ce qui a régné dans la salle, c'est le silence. Ça a été vraiment assez pesant dès le début. Alors pour moi, c'est pas pesant puisque c'est que des faits que j'ai dit, donc que je connais très bien et que, bon, bah, comme tu vois aujourd'hui, je peux les relater sans m'effondrer en larmes puisque c'est quelque chose que j'ai processé depuis très très longtemps étant petit. Mais pour les gens qui n'étaient pas préparés derrière moi, je sens que ça a fait un choc. Et pendant le procès, en fait, on a entendu des choses encore plus choquantes. Ils ont jamais voulu reconnaître entièrement les faits. Quand le verdict tombe, quand la juge énonce le jugement, la première chose qu'elle fait d'ailleurs, c'est de dire qu'il n'y a aucune différence de jugement entre mon père et ma mère. Et après, ce qui est annoncé, c'est que c'était 7 ans de prison ferme. Et ce qui nous a choqué derrière, c'était que l'application de la mise en peine était immédiate. Ça veut dire que là, les deux parents qui étaient dans la salle, ils allaient jamais rentrer chez eux. Même moi, ça m'a choqué, en fait. Il y a cette petite phrase qui apparaît dans mon cerveau qui me dit « Waouh, j'ai envoyé mes parents en prison. » C'est dur, c'est vachement dur, quoi. Comment tu fais ? Il n'y a pas eu ce côté de « Ouais, trop bien, bien fait, la justice. » Tu sais, c'est un peu dans les films que tu vois ça, dans les séries, mais quand tu le vis en vrai, je pense qu'on a tous été choqués. Après, et ma deuxième réaction, ça a été « Ok, ils font du mal à personne dès ce soir. Et je suis assuré qu'ils ne peuvent pas faire du mal à quelqu'un pendant au moins 7 ans. »
Oui, j'avais écrit plein... Enfin, je me réfugiais dans le piano, je pense. Et j'avais écrit... écrit. Je ne les ai jamais écrites, mais j'avais fait plein de chansons toutes seules. Et finalement, je vais faire ça.
C'est vrai que le lendemain, j'ai eu ce sentiment, et Rebecca l'a eu encore plus que moi, où on s'est promené dans les rues d'Angers. Et il faisait très très beau pour le mois de mars. On a pris un café en terrasse. Et en fait, on s'est regardé et on s'est dit, eh ben ouais, on va pas pouvoir les croiser.
C'était Quentin et Rebecca, victimes d'inceste, un reportage de Maxime Pionneau réalisé par Clémence Gross et mixé par Alexandre Dang. Merci à Rebecca, à Quentin, à Marie et à Julien de la Topette. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Mina Morel, qui va bientôt nous quitter, hélas, et qu'on remercie chaleureusement pour ses 4 mois de stage impeccables.